Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Nous nous intéressons ce mois-ci à différentes facettes des relations entre hommes et écosystèmes. On commence ce matin par le seigneur des seigneurs, la biodiversité. Père Barbeau, vous dirigez le département écologie et gestion de la biodiversité au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Donc, d'entrée de jeu, le terme est là, le terme de biodiversité. Un de ces mots qui monte dans les succès médiatiques, sans qu'on sache véritablement de quoi il s'agit, sans surtout qu'on comprenne que derrière ce mot relativement court, il y a une pelote de fil absolument énorme.
Oui, c'est un mot qui est sorti pas de nulle part, qui correspond à une stratégie d'une communauté scientifique et celle des écologues pour défendre des idées, et plus que des idées, un sentiment profond que la nature, que la diversité du vivant était menacée. Et donc ces Américains ont inventé le mot biodiversité, il a été lancé à Rio, et ça explique qu'en dépit de son succès médiatique, son contenu soit resté finalement assez opaque pour la majeure partie des gens. Donc ça a été un succès, mais je suis en train de me demander si c'est pas un succès un peu raté, parce que finalement, plus de 15 ans après, on continue de rencontrer des gens, y compris des gens intelligents, des intellectuels, des scientifiques, qui disent « la biodiversité c'est compliqué, on n'y comprend rien, c'est confus ». Alors moi, je pense que ça n'est pas confus, c'est l'esprit des gens qui est confus. Certains, c'est calculé, c'est avantageux que ça reste confus, qu'on dise que c'est compliqué, parce qu'on peut continuer de noyer le poisson, et là, c'est le cas de le dire, on noie le poisson et l'homme qui le consomme. Donc moi, la biodiversité, je dirais tout simplement, c'est le tissu vivant de la planète. Qu'est-ce qui caractérise la Terre? C'est que la vie est apparue sur cette Terre, et si on respire de l'oxygène, c'est parce qu'il y a eu des êtres vivants il y a des milliards d'années qui ont constituer cette atmosphère, et donc la vie, elle est partout, sur l'ensemble de la planète, en profondeur, dans les fonds marins, jusque dans les glaces, ou sous les glaces, et ce tissu vivant, ben, qu'est-ce qu'il caractérise? C'est qu'il est diversifié, prodigieusement diversifié, donc la vie, elle est diversifiée, c'est ce qu'on appelle biodiversité. Donc, on voit bien que ça nous concerne tous, et on voit bien que c'est complexe, puisque c'est l'ensemble du vivant, et que c'est le résultat de 4 milliards d'années d'évolution, d'histoire. On ne peut pas s'attendre à ce que ça soit simple. Cela dit, c'est parfaitement compréhensible.
Mais on en est quand même qu'au début de la complexité, même si mon propos n'est pas ici de prouver que c'est difficile, mais on en est qu'au début de la complexité, parce que quand vous parlez de l'ensemble du vivant sur la planète, spontanément, l'image qui vient à l'esprit est une image un peu fixe, voire fixiste. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que ça a existé de toute éternité et pour toute l'éternité, et que donc, bien, quelque part, ça ne change pas.
Oui, alors que précisément, si c'est comme ça, si c'est diversifié, c'est parce que ça change tout le temps, et c'est parce que le monde dans lequel on vit, depuis le début, n'a cessé de changer, que la diversité, c'est une stratégie d'adaptation au changement. Il y a de la diversité, parce que pour vivre dans un monde changeant, il faut être diversifié, il faut changer pour s'adapter constamment. Et on voit bien que ça nous concerne, nous autres sociétés humaines, qui sommes confrontés naturellement à la même situation. On vit aussi, comme le reste du vivant, dans un monde changeant, et qui plus est, on contribue à accélérer les processus de changement. Et c'est ça qui est un peu nouveau, et c'est ça qui, pour moi, fait la force du concept de biodiversité, dès lors qu'on est prêt à le décortiquer et à en faire un concept écologique. Il ne faut pas avoir peur du mot. Et pour moi, un des inconvénients du succès du mot biodiversité, c'est qu'il a passé au second plan l'idée d'une vision écologique du monde, une vision écologique de la planète. La biodiversité n'a aucun sens si on n'a pas une lecture écologique du monde.
Qu'est-ce que vous entendez par une lecture écologique du monde, Robert Barbeau?
On va revenir justement au tissu vivant de la planète. Qu'est-ce que c'est qu'un tissu? C'est fait avec des mailles. C'est pas, il n'y a pas une maille indépendante l'une de l'autre, c'est un ensemble. Et donc ce tissu vivant, c'est un ensemble d'espèces qui ont des relations entre elles, des relations mangeurs-mangés. Quels sont nos problèmes à nous autres êtres humains? C'est de trouver à manger, d'éviter d'être mangé ou victime de prédateurs ou de maladies, et puis de se reproduire, parce que sinon la vie s'arrête. On a ça en commun avec l'ensemble des êtres vivants. Et donc, ce tissu vivant de la planète, il s'est constitué progressivement à travers des relations, et on ne peut comprendre la diversité du vivant qu'avec, c'est le mot essentiel, c'est relations, c'est interdépendance, c'est vie en réseau. Et ça encore, ça nous renvoie à la société humaine. On ne peut pas concevoir l'homme ou la société humaine indépendamment de cette vie en réseau, réseaux sociaux, mais aussi participation aux réseaux vivants, ce qu'on appelle les réseaux alimentaires ou les écosystèmes. Et ça, c'est une vision écologique. C'est cette notion d'interdépendance que quand on touche à un endroit, ça va se répercuter à un autre. Et que c'est pas du, c'est le contraire du catalogue d'espèces. Alors il y a le panda, puis là il y a la girafe, puis il y a l'éléphant. Donnez-moi une girafe, je prends un éléphant. C'est pas ça du tout. C'est vraiment un tissu. Et quand on commence à retirer une maille, il y en a une autre qui saute, puis une autre après, et on est dedans.
Là encore, vous nous donnez un concept fondamental, Robert Barbeau, et vous le dites d'ailleurs, je crois, à la fin de votre ouvrage, Un éléphant dans un jeu de quilles. Peut-être ce qui rend les choses si difficiles aujourd'hui, c'est que cette pensée écologique que vous êtes en train de commencer à nous dessiner, elle va à l'encontre de nos systèmes de pensée actuels. Et tout de même, ce que je remarque d'entrée de jeu, c'est que là où on aurait immédiatement imaginé quelque chose de fixe, vous vous introduisez le mouvement, c'est-à-dire quelque chose qui est changeant en permanence, qui est très difficile aujourd'hui à concevoir. Et de nouveau, vous nous indiquez qu'il faut regarder non pas les objets, mais les relations entre les objets, ce qui, là encore, est un effort pour nos mentalités.
C'est tout à fait juste, et tout le problème est là, en fait, c'est notre façon de voir le monde, elle est complètement à côté de la réalité, et ça concerne l'ensemble de la construction de notre monde, du montage industriel, de l'économie, on calcule les choses morceau par morceau, alors que là aussi, il y a des interactions, il y a des interdépendances, et que si on les prend pas en compte, on se plante, on va droit dans le mur, et c'est précisément ce qui se passe actuellement, et qui fait qu'on a parlé de développement durable pour sortir de cette ornière, mais sans aller jusqu'au bout du raisonnement, qui était la prise en compte de cette vision écologique du monde. Et le mot écologique, j'ai remarqué qu'il est assez fortement rejeté, y compris dans la communauté scientifique d'ailleurs, ou les communautés scientifiques, devrais-je dire.
En tout cas en France, où il a pris une connotation politique.
Voilà, et qui exclut qu'on puisse faire autre chose que... Et je pense que pour certains, c'est honnête, pour d'autres, c'est un vrai calcul. Il est interdit d'utiliser le mot écologie parce que il ne faut pas qu'une science écologique, elle existe, mais puisse se développer parce que ça va retirer évidemment des parts de gâteau à d'autres disciplines qui espèrent peut-être s'y substituer.
Peut-être pas seulement à d'autres disciplines, mais on y reviendra certainement. Robert Barbeau, je voudrais peut-être qu'on continue à énumérer les différents éléments qui me paraissent les éléments clés de votre réflexion. Et puis ensuite, on rentrera plus en profondeur. Mais déjà, commencer à mettre en lumière la structure, le squelette, pourrait-on dire. Un autre mot qui est essentiel à la compréhension de ce que vous avez à nous dire, et qui là encore est un mot un peu étrange de nos jours, et surtout après cet été qu'on vient de passer sous le signe de la compétition portée au pinacle des valeurs humaines, c'est le mot de coopération.
Tout à fait. Et je dirais, curieusement, moi, en tant qu'écologue, spécialiste de l'écologie, enseignant l'écologie, j'ai pris tardivement conscience du fait que ma propre discipline avait mis du temps, même si le mot coopération existait dans la littérature scientifique bien avant. Mais si vous prenez des livres, des manuels d'écologie des années jusqu'aux années 80, 60, 70, vous comptez les pages consacrées à la compétition en moyenne, selon les bouquins, ça va être 80, 90, 100 pages. Puis quand vous allez arriver à la coopération, vous allez avoir 3 pages. Et ça n'a changé qu'à partir des années 80. Et certains historiens des sciences ou épistémologues ont souligné le fait que l'émergence de l'écologie, qui a été fortement américaine dans un monde où la compétition était le dogme majeur, ça s'est translaté sur la vision du monde naturel, qui fait qu'on a vu, gros comme une maison, la compétition, mais qu'on n'a pas vu derrière la coopération, qui était aussi importante proportionnellement. Bon, aujourd'hui, les choses ont été singulièrement corrigées, mais dans nos esprits, ça reste quand même, quand je me suis pris comme exemple, c'est pour dire que c'est une erreur qui est facile à commettre, parce qu'on a une forme d'éducation et on voit les choses avec un biais, avec, un angle d'attaque et une vraie réflexion écologique, ça consiste à prendre du recul, et là je prends écologique comme un mot ordinaire, pas de spécialité scientifique, c'est voir le monde avec ses interactions et l'évolution de ses interactions au cours d'une longue histoire dans un espace hétérogène entre les milieux tropicaux, les pôles. Alors, il est étonnant que la coopération soit passée inaperçue, je dirais, pendant longtemps, alors que nous autres, espèces sociales, espèces humaines, mais on n'existerait pas s'il n'y avait pas une coopération. Déjà, une coopération entre individus, donc ce qu'on va appeler coopération intraspécifique quand on le généralise à l'ensemble du monde vivant. On est vraiment un être social, si on ne peut pas imaginer plus social. Et puis en même temps, même notre succès écologique, il est lié à quoi ? À la révolution agricole. Qu'est-ce que c'est que la révolution agricole ? C'est de la domestication de plantes et d'animaux, c'est-à-dire c'est une coopération avec d'autres espèces. Mais c'est tellement évident qu'on oublie complètement. On va faire son marché, on achète des fruits, des légumes, de la viande. On oublie que c'est le fruit d'une longue coopération, une longue coexistence avec des bovins, avec des ovins, avec des porcs, avec des poules, avec des abeilles qui nous donnent le miel, etc., etc. Donc on s'aperçoit que la coopération, c'est le cœur de notre existence, que cette coopération peut l'élargir à l'ensemble du monde vivant, parce qu'on va s'apercevoir, les poissons, ils dépendent de réseaux trophiques, et quand on démaille le tissu vivant, eh ben, on est au cœur et on touche à tout. Et la coopération est aussi essentielle que la compétition et la lutte contre les prédateurs ou les maladies. Ça fait partie du vivant. Tous les êtres ont rencontré cette difficulté et on a des exemples de coopération, y compris dans l'histoire du vivant, y compris nous-mêmes, ce qu'on appelle des animaux eucaryotes avec des vraies cellules, avec un noyau. Ben cette cellule avec un vrai noyau, c'est le résultat d'une symbiose entre plusieurs espèces différentes. Et donc il y a une révolution qui s'est produite il y a environ 2 milliards d'années, qui a vu l'apparition de cette cellule complète, et puis ensuite les êtres pluricellulaires. Et quand on reconstitue l'histoire du vivant, de la diversité du vivant et de la complexification, on s'aperçoit que tous les sauts évolutifs qui ont caractérisé cette histoire du vivant sont liés à des processus de coopération.
Attendez, Robert Barbeau, parce que là, on aurait à la fois envie de vous entendre nous expliquer davantage ce que c'est que cette première coopération entre différentes espèces qui a procédé à l'apparition de la cellule, mais avant, on pourrait peut-être vous opposer, et ça sera la dernière quille que nous allons bousculer avant de rentrer davantage en profondeur dans tout ce que vous nous avez déjà dit. On pourrait vous opposer que là où vous parlez de coopération entre l'homme et les animaux et les plantes, d'autres pourraient parler de prédation de l'homme contre la nature, l'homme qui s'approprie et qui détruit tout. Et finalement, c'est peut-être ce jeu de quilles-là qui est le plus difficile à mettre en place et à ne pas bousculer pour détruire. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les tenants de « mais de toute façon tout va bien, il y a toujours eu de la vie, il y en aura toujours, et de toute façon l'homme n'est qu'un microbe au milieu de tout ça et il n'a aucune influence particulière sur ce qui se passe autour de lui. » Et puis de l'autre, vous avez les tenants du « il faut absolument retirer l'homme, cette horrible bête parasite, et rendre la nature à elle-même et à sa pure harmonie. »
Oui, ça a été important dans l'histoire de la protection de la nature. Avant d'en arriver là, je voudrais revenir sur un point que vous avez souligné à juste titre, en donnant l'exemple simple. Pendant longtemps, on a vécu dans un monde où il n'y avait que des bactéries. Quand je dis pendant longtemps, c'est près de 2 milliards d'années sur la Terre, il n'y avait que des bactéries, certaines qui avaient de la chlorophylle et qui pouvaient produire de l'oxygène, d'autres qui vivaient dans des milieux sans oxygène. Et puis, bon, ces bactéries avaient des relations entre elles. Elles se mangeaient les unes les autres, elles se parasitaient. Et un jour, une bactérie un peu plus grande a été colonisée par une bactérie qui avait de la chlorophylle. C'était un parasite, en fait. Et puis, petit à petit, la relation hôte-parasite est devenue une relation de coopération, parce que la grande cellule apportait quelque chose à la plus petite et réciproquement. Et c'est comme ça que la cellule eucaryote est apparue. Donc on s'aperçoit qu'une relation de parasitisme peut basculer vers une relation de coopération et inversement dans une coopération. Et là encore, moi je dis toujours à mes étudiants, quand vous ne savez pas répondre à une question d'écologie, posez-la vous, moi, société humaine, être humain, comment ça se passe ? ben aussi, on est des êtres qui coopèrent, mais il y en a qui trichent, et puis il y en a qui coopèrent un peu moins, et donc qui vous parasitent d'une certaine manière. Ben, bon, ben voilà, c'est ça, ça fait partie du fait que le vivant est constamment en situation de déséquilibre et qu'il y a des régulations de proche en proche. Alors maintenant, pour en venir à la vision protection de la nature, je dirais, et moi là encore, je peux me citer en exemple pour montrer que je critique pas tout le monde. Si j'ai fait de l'écologie, quand j'ai voulu faire de l'écologie, j'ai fait ma thèse en Côte d'Ivoire avec l'idée, bon d'abord c'était quand même, ça changeait de la Beauce ou du Berry. J'aurais pas probablement pas fait d'écologie si j'étais resté en région parisienne ou faire de alors qu'on peut faire de l'écologie sur la Beauce, sur n'importe quoi, y compris sur une ville. On en parlait tout à l'heure avant le début de cette émission.
C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être dans l'exotisme.
On n'a pas besoin d'être dans l'exotisme, mais il n'empêche que la vision du monde telle qu'elle s'est construite me faisait concevoir, comme beaucoup d'écologues d'ailleurs, la nature pure et dure où l'homme n'avait pas mis les pieds ni les mains. Donc moi, pour moi, l'Afrique, c'était loin, c'était la nature sans l'homme. Quand j'y suis allé, je me suis aperçu qu'il y avait des gens, il y avait des Africains. Là, c'était des Baoulés, puisque c'était en Côte d'Ivoire, à la frontière forêt-savane. Ça m'a fait d'ailleurs découvrir une autre réalité, et je pense que ça a pesé énormément dans mon évolution, cette fréquentation de gens, de Baoulés, qui parlaient une autre langue que la mienne. On a parlé, on a travaillé ensemble. Et donc là, ben, j'ai découvert que la vision du monde écologique que j'avais, elle était complètement faussée. Ensuite, dans les années 90, sont parus plusieurs ouvrages d'écologie d'historiens, et dont par exemple celui de Deléache qui mettait en sous-titre l'écologie, science de l'homme et de la nature. Au début, ça me choquait, je dis non, c'est une science de la nature. Donc il m'a fallu du temps. Donc ça, on peut comprendre que la majorité des gens comprennent pas, puisque le spécialiste que j'étais a découvert tardivement que l'homme, en fait, faisait partie de ces systèmes, et que quand on avait une vision conservation de la nature, on exclut l'homme et on va essayer de conserver, ben en fait, ça marche pas du tout. Alors ça marche pas du tout pour des tas de raisons, pas seulement parce qu'on fait partie de ce tissu vivant, mais c'est qu'on l'a transformé, par exemple, dans nos pays, les paysages que nous-mêmes, les plus beaux paysages, avec des animaux plus ou moins sauvages, ils ont été façonnés par nous. Les grands prédateurs ont disparu ou sont devenus très rares, et que si on n'intervient pas, on peut pas avoir, on va voir nos paysages se modifier. Donc non seulement on fait partie de ce tissu vivant, mais on est obligé d'intervenir, y compris dans les stratégies de conservation. Alors je comprends bien que ça pose des problèmes, parce qu'il y a le risque, la vision du jardinier de la planète. Le jardinier de la planète, s'il faut jardiner tout l'ensemble de la Terre, ça va coûter la peau des fesses, ça sera pas très efficace, parce que quand même, ces équilibres qui se sont constitués, même si c'est des équilibres instables qui changent pour s'adapter au changement, bon, ça se fait tout seul, ça coûte rien, c'est hyper complexe, ça va du microbe, du virus, jusqu'aux mammifères et aux oiseaux. Est-ce qu'on est capable de gérer ça? Non, c'est évident qu'on n'est pas capable de gérer ça. On voit bien les problèmes qu'on a déjà pour gérer un jardin, pour maintenir des équilibres à peu près satisfaisants pour éviter que les limaces mangent toutes les salades, etc., etc. On a besoin d'utiliser les compétences des êtres vivants, des autres êtres vivants, pour accompagner, ça sera une gestion d'accompagnement, mais pas une gestion nous tout seuls. Donc là encore, on a une intrication étroite de l'homme avec l'ensemble des systèmes, et aujourd'hui, là, les politiques de conservation de la nature ont fait ce revirement, que ce soit les grandes associations, UICN, VVF, quand on lit leur dernier texte, y compris la stratégie sur la biodiversité 1980, enfin ça s'appelait pas biodiversité à l'époque, c'était déjà clairement une vision écologique telle que je la définis, avec les sociétés humaines dedans, parties prenantes, à la fois bénéficiaires et éventuellement responsables des dégradations qui sont produites. Ça, c'est une vraie révolution importante qui n'a pas été bien pesée et mesurée par tout le monde et par l'ensemble de la société, mais je crois que le monde de la conservation de la nature a fait cette révolution-là, on peut dire au début des années 80, et aujourd'hui, c'est pleinement pensé par la majorité des acteurs de ce secteur qu'on appelle conservation.
Mais peut-être pas par l'ensemble de la société, Robert Barbeau. Et là, il y a peut-être une précision qu'il faudrait apporter pour qu'on comprenne mieux ce que vous entendez par là. Parce que on pourrait trouver qu'il y a quelque chose, il y a de l'orgueil à vouloir que l'homme jardine la nature, comme vous le disiez, pas uniquement, c'est pas uniquement un défi de l'ordre économique, mais ontologique. Enfin, mais En fait, ce que vous expliquez bien dans vos ouvrages, et c'est peut-être ça qui est essentiel, c'est que c'est devenu une sorte d'obligation pour l'homme, aujourd'hui, d'avoir ce rôle au sein de la nature, obligation qui a toute une histoire. C'est-à-dire que il semblerait qu'à un moment de son évolution, l'homme a pris une place qui n'était pas la sienne au départ. Et pour ça, il faut qu'on remonte. Alors là, je vous propose, on a un petit peu étalé tous les outils de votre boîte à outils conceptuels sur la table devant nous. Maintenant, il faudrait qu'on remonte. On pourrait peut-être remonter carrément jusqu'au gène. Jusqu'au gène qui, expliquez-vous, utilise le vivant comme véhicule pour se reproduire lui-même. C'est-à-dire que nous serions tous, depuis l'amibe et le microbe jusqu'à l'humain, en passant par l'éléphant, l'arbre ou ce qu'on voudra, des simples véhicules à gènes. Et ce qui se serait produit à un moment, c'est que l'homme, d'une certaine manière, est devenu le conducteur du véhicule.
Oui, c'est tout à fait juste. C'est ça, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement difficile à comprendre. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. L'évolution est une réalité avec des mécanismes qu'on connaît bien.
Détaillez-les un petit peu peut-être.
Alors, on va revenir au début de la vie. Qu'est-ce qui assure la continuité du vivant? C'est précisément les gènes, c'est-à-dire c'est l'ADN. C'est ça qui est la permanence. C'est l'information est dans l'ADN et c'est ça qui se transmet de génération en génération, et qui fait que les hommes sont des hommes de génération en génération. Et donc, au départ, dans la multiplication du vivant, c'était un phénomène de multiplication de l'ADN, c'est-à-dire des gènes. Alors, au début, c'était des molécules qui étaient noyées dans la soupe de l'époque. Et il s'est trouvé que celles qui ont réussi à fabriquer des parois cellulaires étaient mieux préservées, se multipliaient plus, et c'est celles-là qui ont pris la place des autres. Et de proche en proche, tout au long de l'histoire de l'évolution, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que les êtres qui réussissent, c'est-à-dire ceux qu'on trouve autour de nous, c'est ceux qui se multiplient avec la plus grande efficacité. C'est pas le plus beau, le plus fort, c'est une question bêtement mathématique de multiplication différentielle. Et donc, ces gènes, c'est toujours eux qui sont présents. Ils ont inventé d'abord la paroi cellulaire, des cellules, puis des êtres multicellulaires, comme nous. Et c'est parce que c'est le moyen le plus efficace qu'ils ont trouvé pour se multiplier le plus. Donc accepter l'idée que nous autres, êtres pensants, capables de se projeter sur l'avenir, fabriquant des villes, etc., etc., on est simplement manipulé par nos gènes et nos comportements. Ça, c'est quelque chose qui a été une cause de rejet du darwinisme. Bon, tant que c'était les microbes, les vers de terre, les insectes, dès qu'on commençait à atteindre les mammifères, les primates, les autres singes, et qu'on commençait à interpréter leur raisonnement par rapport à cette mécanique. Mais malheureusement, cette mécanique, c'est quand même une vraie réalité. C'est comme ça que le vivant fonctionne. Simplement, bien entendu, une fois qu'on a créé un être, l'organisme est aussi une réalité. C'est certes un véhicule, mais à partir du moment où ce véhicule est pensant, il peut modifier le cours des choses. Et c'est tout l'enjeu qui repose sur les épaules et le cerveau de l'homme, même si d'autres espèces ont aussi des capacités de raisonnement. Enfin, on s'aperçoit que là, il n'y a pas une frontière aussi considérable entre l'homme et les grands primates, par exemple, nos cousins, chimpanzés, gorilles et autres.
L'être pensant peut modifier les choses et de fait il les a modifiées. Il les a modifiées en profondeur, mais je voudrais quand même qu'on reste encore un peu, Robert Barbeau, je vous embête là, hein, mais sur les mécanismes que notre cerveau nous a permis enfin petit à petit de décortiquer et de comprendre, mais ils sont là encore d'une complexité inouïe, c'est-à-dire que vous nous avez décrit le gène utilisant des véhicules vivants pour se transmettre et donc se perpétuer. Mais là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est que l'évolution, elle est effectivement permanente. Et je reviens là à un des éléments que nous avons souligné au début de notre entretien, le fait que le changement est la seule chose permanente, finalement. Le changement est permanent. Et donc, pour faire face à ce changement permanent, l'évolution change en permanence. Vous avez dit tout à l'heure, c'est pas le plus beau, le plus fort, pour une raison très simple, c'est que selon les conditions, c'est pas le même qui sera le plus beau ou le plus fort. Le plus beau dans un cas sera le moins beau dans un autre cas, le plus fort deviendra le faible, etc. Et c'est donc à ce changement constant des conditions que l'on doit le changement constant des organismes vivants.
Oui, et le fait que ce soit construit non seulement des organismes et des populations, des sociétés, ça change aussi complètement. Et effectivement, dans ce cas-là, le plus beau, le plus fort, c'est pas celui qu'on pensait. Ou c'est devenu radicalement différent. Donc ça veut pas dire que l'évolution a changé. Puis il y a autre chose tout de même, c'est que jusque pendant longtemps, seuls les gènes étaient le lieu de codage de l'information, et l'information qui était transmise, c'était par la voie des gènes. Mais avec l'apparition des cultures, de la parole, il y a aussi des transmissions orales, des transmissions écrites, et ça, c'est une réalité aussi, tout autant que la transmission par les gènes. Donc, il n'y a pas... C'est encore, d'ailleurs, c'est un saut évolutif important qui est lié à la construction des sociétés humaines, et donc l'apparition de quelque chose de nouveau. Mais les systèmes de régulation, finalement, on va dire bestiaux, brutaux, c'était celui qui se reproduisait le plus. On les a complètement modifiés avec nos capacités d'action sur le monde, de transformation des équilibres du monde. Et c'est là où on est un petit peu désarçonné. Notre capacité intellectuelle et d'intelligence, elle est obligée de se plonger de façon maintenant très approfondie sur ces mécanismes-là, et avec toutes les échelles d'emboîtement depuis les gènes, les individus, jusque l'ensemble des réseaux vivants sur l'ensemble de la planète, avec et ça rejoint après l'organisation politique, sociale, et voilà comment d'une écologie où on partait de la nature, on débouche à une écologie politique, et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de rupture entre l'écologie scientifique et l'écologie politique, même si ce n'est pas la même chose. Si ce n'est pas les mêmes engagements qu'on a, il y a continuité. C'est pour ça que moi, j'attache beaucoup d'importance à l'expression « vision écologique du monde ». Et cette vision écologique du monde, ce n'est pas les écologues naturalistes qui sont les seuls à l'avoir. Un économiste, un géographe, un sociologue peut avoir, et tout un chacun peut avoir une vision écologique du monde. C'est une appropriation de quelque chose qui nous concerne tous. Et si cette révolution-là va jusqu'au bout, peut-être qu'effectivement l'espèce humaine sera capable de retrouver un équilibre, avec pas mal de dégâts inévitablement, mais avec l'ensemble de la biodiversité. Dans l'ensemble de la biodiversité, bien sûr, des espèces auront disparu, ou certaines seront devenues très rares. Ça fait partie des changements, mais des changements qui sont, dès lors que nous en sommes les responsables, dès lors que ces changements sont soit inévitables, soit un peu rendus conscients et faits de façon intelligente, on peut les accepter. Voir la disparition des baleines, des éléphants et des rhinocéros avec aucun bénéfice, aucun avantage, c'est la même chose que détruire la cathédrale de Chartres, Notre-Dame. Bon, si pour une raison ou pour une autre, les éléphants disparaissent parce que le système fait qu'ils pouvaient plus vivre, c'est pas tout à fait la même chose que si on a abouti bêtement à leur destruction avec des tas de conséquences sur le fonctionnement des savanes, sur les services écologiques assurés par les savanes et donc les retours sur les sociétés qui vivaient dans ces pays-là, parce que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas une espèce qui disparaît. C'est pas forcément grave, c'est qu'il y a des fonctionnements qui disparaissent, les systèmes se dégradent, et c'est ça qui est grave, c'est de contribuer à démolir bêtement.
Voilà, attendez, parce que là vous dites beaucoup de choses, et des choses qui font un peu sursauter. Je voudrais qu'on reste sur notre image, parce que finalement elle est bien commode, du véhicule devenu pilote. L'homme était une voiture, il est devenu pilote de course, et en vérité il ne connaît pas complètement le code de la route. Donc, l'homme est intervenu, de fait, sur l'évolution d'un certain nombre d'espèces. Quand je dis qu'il est intervenu, c'est vrai qu'il en a fait disparaître pas mal, et apparemment, plus la science avance, et plus ça se confirme. C'est-à-dire que des extinctions qu'on avait pu imputer à des changements climatiques, vraisemblablement, sont au moins aussi le fait des premiers chasseurs, du néolithique, par exemple. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que le fait d'entraîner l'extinction d'une espèce a des répercussions bien plus larges. C'est un peu comme un caillou qu'on lance dans l'eau et qui rejaillit en cercle de plus en plus large.
Oui, c'est tout à fait ça. Bon, on peut prendre un exemple simple. Quand on pêche des poissons, on pêche des morues, on en pêche des centaines de milliers de tonnes, voire de millions de tonnes. Au bout d'un certain temps, la population de morues, même si l'espèce n'a pas disparu, devient tellement raréfiée que dans le fonctionnement des écosystèmes marins, il se passe des tas d'autres choses qu'on n'a pas voulu, on n'est pas responsable, mais ça s'est néanmoins produit. Et donc, de fil en aiguille, on est en train de modifier complètement les équilibres profonds des écosystèmes et avec des répercussions qu'on n'est pas capable de maîtriser parce que c'est pas maîtrisable. Donc déjà aujourd'hui, se tourner vers le fonctionnement de l'océan, et on commence à le faire, il y a pas mal de bouquins qui paraissent sur la tragédie du monde marin qui est colossale. On a fait disparaître aucune espèce de requin à ma connaissance, aucune espèce de baleine, mais on a réduit les effectifs de ces espèces à tellement pas grand-chose, et ça donne une autre idée, c'est que l'importance d'une espèce n'est pas seulement exister ou pas exister, même si évidemment la disparition c'est définitif, donc ça a un poids particulier, mais le seul fait d'avoir effondré les stocks de grands prédateurs marins, ben ça se traduit par les proliférations de méduses dont maintenant on parle tous les ans régulièrement. Et bientôt, on n'aura plus à manger que des méduses et pas de poissons, avec tous les inconvénients que les méduses représentent. Et ça, c'est une petite fraction des choses, parce que on peut prendre les récifs coralliens aussi, là, avec les réchauffements climatiques. Bon, on voit ces beaux coraux, ces récifs gigantesques qui couvrent des centaines de milliers de kilomètres dans certaines régions du monde. Ben, ces récifs qui sont construits par un animal en passant symbiotique, hein, c'est une algue et un animal qui coexistent ensemble, qui fabriquent ces récifs. Ben, c'est des lieux d'existence de nombreux poissons, de nombreux mollusques, de nombreuses algues, enfin de tout un monde vivant. Le récif corallien, suite au réchauffement climatique, se résorbe parce que l'algue ne peut plus coexister avec le petit animal. Le corail devient blanc, les coraux se démolissent, les poissons qui y vivaient ont plus de lieu d'existence. Quand les vagues auparavant étaient arrêtées par le récif corallien, elles ne vont plus être arrêtées, ça va aller sur la côte, ça va faire des ravages, etc. etc. On s'aperçoit qu'on a un petit changement a des répercussions partout. Donc effectivement, le pilote, il peut pas maîtriser tout ça. On peut pas lui demander de maîtriser tout ça. Donc, faut peut-être qu'il s'arrête, qu'il regarde, et puis qu'il s'appuie sur les fonctionnements tels qu'ils existent pour essayer de corriger modestement. C'est-à-dire qu'il faut revenir à une vision humble, modeste, qui était la nôtre du temps où on avait à lutter contre les grands carnivores, contre le froid. On était humble, modeste, on se resserrait les uns les autres. Le succès de la technologie a fait cette espèce d'inflation, on est capable de tout, et c'est vrai, on est capable d'énormément de choses, mais par rapport à cette complexité géographique, spatiale, historique, ces êtres vivants, c'est des millions d'années, avec le bénéfice de milliards d'années, je dirais, de réflexion ou d'expérimentation, on peut pas refaire la même chose en 3 jours, en 8 jours, en 10 ans.
En vous écoutant, là, je me disais que finalement... Peut-être que ce qui nous a joué le plus mauvais tour, collectivement, quand je dis collectivement, je parle de l'ensemble de la planète et pas seulement de l'humanité, c'est cette tendance qu'on a eue à la simplification, c'est-à-dire à essayer de comprendre les choses en les rendant les plus simples possibles, qui fait qu'aujourd'hui, à tous ces niveaux de complexité que nous avons déjà évoqués, à tout ce feuilletage, il faut rajouter encore une couche, qui est cette notion qu'il n'existe pas d'équilibre d'une population ou entre les populations. Toutes les populations vivantes sont tantôt plus importantes, tantôt moins importantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment parfait où on aurait un équilibre parfait entre la population des poissons, des morues, la population des méduses. Il y a de toute façon, c'est comme une respiration. Ça s'amplifie, ça décroît en permanence. Or, et c'est là que j'aurais comprendre pourquoi vous avez dit tout à l'heure, c'est pas grave que les éléphants disparaissent. Ce qui serait dommage, c'est qu'ils disparaissent sans bénéfice. C'est comme si, dans notre mode de pensée, on avait remplacé ce mécanisme de la vie qui fait que à une somme moindre de morues va correspondre une somme plus importante de méduses, par exemple, ou que à un nombre plus important d'arbres va correspondre cette fois à un nombre plus important de mammifères et non pas moins important, puisqu'il y aura davantage de ressources, donc il y aura davantage. C'est une sorte d'arithmétique extraordinairement compliquée que nous avons remplacé par une arithmétique incroyablement simple, à 10 éléphants tués correspondent tant de dollars d'ivoire des défenses d'éléphants.
Oui, alors là, je pense que ce que j'ai dit, c'est pas exact, c'était pas ça que je voulais dire, parce que pour moi, si l'éléphant disparaît, c'est une catastrophe. Ce que je voulais dire, c'est que on peut imaginer des situations où l'espèce humaine, pour survivre, soit conduite à provoquer des modifications qui vont entraîner la disparition de certaines espèces. Mais si c'est lié à une condition de survie, j'accorde quand même un primat à l'espèce humaine. Tout en étant un défenseur de la nature, je fais ce distinguo. Donc, je pourrais dire la même chose. Si il se trouve que pour faire survivre des gens qui sont dans la rue, on est obligé de transformer, enfin, j'y crois pas non plus, mais Notre-Dame de Paris en HLM pour que les gens vivent bien, ben, je dirais, bon, c'est une triste, c'est une catastrophe, mais au moins, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais je pense que, en même temps, que vu la dimension prise par l'espèce humaine, aujourd'hui, c'est pas honnête de faire croire qu'on pourra sauver la planète. Enfin, c'est la vision où l'homme, il doit s'arrêter et on va tout sauvegarder la planète. Ça tient pas parce qu'on fait maintenant partie du système aussi et que le reste du système a besoin de nous. Un nous peut-être plus intelligent, plus coopératif, mais on en fait partie. Il faut s'en sortir au mieux avec l'ensemble. Donc, bien sûr, il va y avoir des espèces qui vont être inadaptées. C'est déjà la réalité quand on crée des milieux ouverts. Il y a des tas d'espèces dans nos villes, dans nos pays, en France, en Europe, qui sont des espèces de milieux ouverts. Et que si tout d'un coup on arrêtait tout, la forêt allait tout regagner, ben les espèces de milieux ouverts, elles vont pas être contentes. Donc, on voit bien que il y a des espèces qui en profitent, d'autres qui ne profitent pas. C'est ce que vous disiez. Il n'y a pas d'équilibre. Il y a constamment des espèces qui augmentent, qui diminuent. Et il y a des interactions. Alors, il se trouve que nous, on a pris un poids énorme dans les interactions et qu'on modifie ces équilibres, y compris à notre propre détriment, peut-être pas immédiat, mais à coup sûr futur. Et donc, on engage les conditions de vie, nos enfants, nos petits-enfants. Et pour l'espèce prétentieuse que nous sommes, il faudrait quand même se dire, c'est pas anodin du tout, même si moi j'en souffre pas. Bon, mais je sais que mes enfants vont en souffrir, ça va leur coûter cher, ils vivront dans de moins bonnes conditions, ils vont me demander pourquoi j'ai rien fait. Et là, voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut remonter le fil. Alors, donc, bien sûr, il y a des espèces qui vont disparaître, mais en même temps, dire que c'est pas grave que des espèces disparaissent, je sais bien, on vit pas dans un monde naïf. S'il y a eu des grosses destructions, c'est parce qu'il y a des intérêts pour certains, et que si un spécialiste dit oui, ben c'est pas très grave, on va perdre 30% des espèces, il y en a suffisamment. Vous voyez, il a dit que c'était pas très grave, et après on pourra plus arrêter les choses. Donc moi je défends, y compris des positions intégristes. Je pense que même des visions un peu, je dirais, superficielles, on protège la nature, je dirais un peu bêtement entre guillemets, mais s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient fait ça dans les décennies ou les siècles précédents, la face du monde serait beaucoup plus triste et beaucoup plus endommagée qu'elle n'est aujourd'hui. Donc même des gens qui ont défendu la nature contre l'homme, ils ont fait un boulot utile. Bon, alors maintenant, on peut essayer de faire mieux, mais je pense qu'on est quand même, là il y a une lutte pour un avenir meilleur, et c'est quand même une lutte. Et donc, qui dit lutte dit aussi, il faut pas être naïf et dire bon, ben on va raisonner, on va réfléchir, on va penser que non, il faut aussi se battre en même temps qu'on défend des idées justes. C'est la complexité du monde dans lequel on est, le monde social. On voit bien ce qui se passe dans la nature, ça se passe aussi dans notre société. Là, on dit la biodiversité se dégrade, mais je pense que la société humaine se dégrade aussi.
Alors, c'était complexe, mais en gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que il faut pas se voiler la face, et que de toute façon, dans le combat qui est le nôtre aujourd'hui, le nôtre, celui de l'humanité, il va falloir accepter des pertes pour réussir à obtenir un profit meilleur. Alors, j'avais essayé de vous entraîner sur le terrain de l'économie. Vous avez refusé de me suivre. Oui, non, on va y venir. Je suis sûre qu'on va y venir. Mais on va rester quand même sur cette notion de lutte, puisqu'elle me paraît intéressante. C'est une lutte, mais curieusement, c'est une lutte qui rompt avec tous les systèmes qui ont été mis en place par l'humanité, qui étaient des systèmes qui toujours consistaient à aller contre la nature, à se battre contre, à faire une sorte de course aux armements, ce que vous appelez une course aux armements biologiques, à inventer des médicaments toujours plus puissants pour détruire les microbes, mais manque de chance, ces médicaments plus puissants, les antibiotiques, créent des résistances chez les microbes, à inventer des produits toujours plus puissants pour lutter contre les ravageurs, mais manque de chance, ça crée des résistances encore plus puissantes chez les ravageurs. Et cette lutte dont vous parlez, Robert Barbeau, c'est une lutte qui, justement, oblige à rompre avec tout ça.
Oui, mais c'est ça, tout le dilemme, il est là, c'est que vivre, ça rejoint la discussion, coopération, compétition, lutte, il y a nécessairement les deux. Et vouloir donner l'image de la biodiversité, la nature qui est bonne, c'est pas ça non plus. C'est évident que, de toute façon, on a à se défendre, on a à protéger nos cultures ou nos animaux domestiques. Simplement, la stratégie actuelle, elle est mauvaise, elle est inefficace et elle nous conduit à l'échec. Donc c'est là où il faut revenir sur des principes écologiques qui font qu'il ne s'agira pas de dire que tout est beau et qu'il n'y aura pas à lutter, mais lutter différemment, je dirais façon judo plutôt que façon mitrailleuse, en accompagnant. Et là, c'est précisément là où de nouveau on retrouve la diversité. C'est-à-dire que la diversité est un élément stratégique fondamental pour tamponner, pour maintenir des équilibres. Il y aura toujours un peu de prédateurs, un peu de parasites. Mais finalement, leurs dégâts seront réduits. Si on prend un exemple simple, l'agriculture industrielle avec des champs homogènes sur des vastes surfaces, avec un blé, là encore l'espèce la plus belle, la plus puissante, la plus productrice, ben ça ne va pas durer longtemps parce qu'il y aura tellement à manger pour des ravageurs spécialisés qu'eux aussi vont se mettre à pulluler, que ça va s'effondrer. Alors on va arriver avec nos machins, nos insecticides. Bon, ça va marcher un an, deux ans, et puis après, ben, on va sélectionner de la résistance, et de nouveau, ça va se reproduire. Alors que si on fait comme faisaient les paysans traditionnels, ou que ça se fait encore dans certaines régions, ça a été redécouvert et ça se redéveloppe au Mexique ou ailleurs, on fait un rang de maïs, un rang de courgettes, un rang de haricots, d'abord, on a une plus grande production à l'hectare. Alors évidemment, c'est plus difficile à exploiter parce qu'on ne peut pas utiliser des moyens mécaniques simples, comme on fait quand c'est homogène, mais n'empêche que pour une famille de cultivateurs, ils peuvent vivre mieux et ils auront beaucoup moins de ravageurs, parce que les ravageurs aussi vont être perdus dans cette diversité et n'auront pas le succès qu'il a. Donc, on voit bien qu'une autre conception est possible, une conception écologique, et là, toute la difficulté, c'est de passer notre monde uniforme, organisé en tuyaux, les filières machin, à un monde d'interaction où on reprend ce qui s'est fait pendant longtemps, pendant une agriculture traditionnelle, où on coopérait avec des tas d'espèces, même des espèces qu'on connaissait pas, mais qui jouaient un rôle de régulateur. Il y avait de temps en temps des ravageurs, mais ils n'avaient pas le temps de proliférer. Il y avait une espèce qui venait, et nous, on a tellement simplifié, linéarisé, que maintenant, on est dans la mitrailleuse lourde, et on pourrait presque faire des analogies avec ce qui se passe aussi dans le fonctionnement du monde humain aujourd'hui, où, bon, on peut quand même être déçu des progrès de notre espèce de ce point de vue-là.
De fait, une des simplifications à outrance qui ont été opérées, c'est celle qui consiste à traduire absolument toutes les richesses, toutes les productions du vivant en argent. C'était un peu là-dessus que j'essayais de vous amener. Et voilà, on y arrive tout à fait logiquement. Et à cela, peut-être on pourrait rajouter une dimension de la lutte que vous évoquiez, Robert Barbeau. C'est que, de fait, même si nous faisons tous partie d'une même planète, même si nous sommes tous membres d'une même communauté de vivants, nous n'avons pas tous la même place par rapport à cette lutte. Et en effet, il y a des camps, et c'est peut-être ça aussi qui est un peu difficile à comprendre quand on parle de la biodiversité et de la nécessité de se recouler dans un monde plus naturel, plus mouvant, plus souple. D'une certaine manière, tout ça, ça évoque des images de bonheur, de paix, d'harmonie. C'est pas exactement ça.
Ben non, c'est pas exactement ça. C'est un peu le défi. Vivre, c'est quand même, il faut lutter pour vivre, qu'on le veuille ou non. Et que, bon, lutter à plusieurs et coopérer, ça apporte quand même des compensations, et c'est ce qui fait que le jeu en vaut la chandelle. Sinon, effectivement, ça serait redoutable. Mais pour en revenir au point de basculement vers l'économie, tout à l'heure, on évoquait le gène qui nous manipule, et c'est vrai que c'est dur à accepter que nous autres êtres intelligents, nos comportements puissent être le reflet des intérêts de nos gènes. On trouve ça insupportable. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est pas les gènes là qui vont nous gouverner, c'est le dollar ou l'euro. Est-ce que c'est mieux? On est passé de la coupe de dominé par ces gènes, on va être dominé par un truc complètement qu'on a fabriqué et qui nous gouverne, parce que c'est ça qui se joue, ni plus ni moins. Et je pense que l'analogie entre le gène qui nous gouverne et la monnaie qui nous gouverne, elle est fondée. Et là, tout l'enjeu actuellement de notre société et d'un développement qui serait durable, c'est de revenir là-dessus avec une vision écologique.
Vous donnez même l'image de la cage à écureuils ?
Oui, c'est ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont des économistes qui ont produit cette image où on travaille comme des bêtes pour produire plus.
Racontez-la.
C'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit qu'on est comme l'écureuil ou le hamster dans sa roue, qui court, et qui finalement reste à la même place. Il fait tourner la roue qui éventuellement peut produire de l'électricité, mais en tant qu'homme, en tant que société, on n'avance pas du tout. On est manipulé complètement pour produire quelque chose qui sert des intérêts qui sont pas nécessairement les nôtres. Et c'est vraiment l'enjeu des sociétés aujourd'hui, et c'est là où l'homme s'interroge tout d'un coup sur l'évolution, où va-t-on, quel est notre type de développement, c'est l'enjeu du développement durable qui est posé avec force depuis Rio, même si ça c'était déjà avant.
Vous n'êtes pas un pessimiste, Robert Barbeau. Il y a plusieurs éléments qui sont des éléments très forts dans votre réflexion, qui sont des socles sur lesquels on peut s'appuyer pour imaginer un avenir plus rieur que celui qu'on nous promet. D'abord, c'est pas vous qui l'avez inventé, hein, mais cette propension du vivant à s'étendre en permanence. Le vivant a une force extraordinaire, et vous le dites et vous le rappelez. Et puis aussi le fait que l'homme, pendant des millénaires, a été facteur de diversification, donc d'enrichissement, puisque la richesse essentielle, c'est celle de la diversification. Et l'homme a contribué à la diversification de la planète, diversification des plantes, des animaux, des écosystèmes, des biotopes. Donc, d'une certaine manière, c'est vrai que peut-être, à vous écouter, en changeant notre regard, et surtout en changeant radicalement nos modes d'action, en les amenuisant le plus possible, en devenant le plus subtil possible, pourrait-on endiguer cette sorte de spirale infernale dans laquelle nous sommes ?
Oui, mais si ça ne se fait pas, parce que maintenant cette analyse, elle est quand même largement faite par des tas de gens, y compris des décideurs, simplement le défi qui est posé, c'est comment peut-on passer d'un type d'équilibre ou de déséquilibre qui est le nôtre à un autre radicalement différent. C'est la phase de transition qui est difficile, parce que c'est une phase de catastrophe, de dégâts. Qui va payer les dégâts, où vont être les... Et donc, faire cette évolution en transition, c'est ça le défi. Je pense qu'on doit pouvoir y arriver, mais je comprends que ça soit pas facile, du jour au lendemain, et c'est un problème qui a été que la vie a connu au cours de son évolution, mais la vie, il y a eu des catastrophes, des effondrements, et puis des espèces se sont développées. Nous autres, êtres humains, on peut pas faire la même chose, on n'est plus tout à fait dans le même contexte, et il faut réussir cette mutation progressivement. Alors moi, je pense que c'est possible à une condition, c'est d'avoir un objectif stimulant. Et c'est ce qui fait défaut. C'est-à-dire qu'on peut pas demander aux gens de se serrer la ceinture, alors qu'on sait pas pourquoi, on sait pas pour qui, ou même, on a l'impression que c'est pour toujours pour les mêmes. Mais si vraiment... Et c'est pour moi, c'est ça qui m'a séduit dans le mot biodiversité, parce qu'au début, je ne l'ai pas dit, mais je dis au moins biodiversité, on connaît la diversité du vivant, il n'y a rien de nouveau. Ce qui m'a séduit, c'est que ça nous obligeait à repenser nos relations avec le monde, nos relations entre hommes par rapport à la nature, et que ça, c'était fondamental, et que certes, c'était avoir une vision un peu dure de ce qui se préparait, que c'était un peu catastrophique, mais en même temps... Si tous on se penche là-dessus, connaissant à la fois les capacités, les potentialités du vivant, mais aussi l'espèce humaine. Bon, quand on pense à des Gandhi, à des Mandela, on se dit, bah si, l'homme est capable de tout. Moi, pour l'Afrique du Sud, j'aurais pas parié une transition, finalement. Bon, c'est pas harmonieux, mais n'empêche qu'il n'y a pas eu de massacre grandiose. Donc c'est possible, donc l'homme est capable de ça. Mais pour y parvenir, il faut vraiment des objectifs. D'abord, il faut une sincérité dans les diagnostics, et il faut, et c'est un objectif prodigieux d'essayer de lancer l'humanité dans une biosphère durable. C'est quelque chose de stimulant, et je suis sûr qu'on peut entraîner les gens, tous les gens, là-dessus. Et c'est comme ça qu'il faudrait poser les problèmes, y compris les problèmes politiques, mais il y a besoin d'une parole vraie, et tout construire sur le mensonge, c'est ça qui est la catastrophe. L'aveuglement et le mensonge, même s'il y a des gens qui savent, on va pas le dire aux gens parce que c'est trop triste, ça va leur faire de la peine, il faut pas. Ben non, moi je crois qu'on peut dire la vérité, on peut dire que ça va être difficile, il faut se retrousser les manches, mais tout le monde. Donc c'est là où je suis optimiste, mais sinon, je me dis, ça va être très difficile quand on voit comment ça marche, y compris les moyens de communication, les grands médias, la télévision, si on regarde les informations, c'est là où tous les gens... Quand on voit comment on peut les manipuler, leur donner une vision du monde qui ne correspond pas du tout à la réalité ou celle qui serait utile, ça c'est un peu préoccupant. Mais en même temps, quand on va sur le terrain, qu'on voit des choses qui se font, des gens, dans des villages, dans tous les coins du monde, il se passe des choses où il y a des changements. Donc ça, ça donne l'espoir. Donc voilà, ayant foi en l'homme, je me dis, bon, j'ai une vision pessimiste quand même de ce qui se passe, de la réalité telle qu'elle est, mais en même temps, j'ai, ce que disait Gramsci, l'optimisme de la volonté. Je crois que quand on veut, quand on a un objectif, on peut parfaitement corriger les choses, même s'il y aura un prix à payer, il y aura quelques dégâts, mais ça sera moins que si on fait rien et que si on change pas cette vision du monde.
Mais finalement, ce qui est très... Peut-être que ce qui est le plus exaltant, Robert Barbeau, je vous propose ça comme mot de la fin, c'est de se dire non plus qu'on est en train de quitter un refuge fixe et solide pour se lancer dans le vide ou à la mer, mais plutôt qu'on doit accepter de passer d'un trapèze à un autre.
Je pense que c'est une bonne vision de ce qui nous attend et ce qu'on doit réussir.
Que nous avons évoqué avec Robert Barbeau, Un éléphant dans un jeu de quilles, est disponible en édition de poche. Vous savez que vous pouvez réécouter cette émission et même la podcaster pendant une semaine sur notre site franceculture.com. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou encore nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Pas de phytobar ce mois-ci, c'était trop près de la rentrée, mais nous nous retrouverons dorénavant le premier mercredi de chaque mois à 19h au phytobar. On commence donc mercredi 1er octobre avec la crise alimentaire. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage Yves Baudry, réalisation Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.